Alors, on va recommencer tranquillement pour essayer de respecter un petit peu les horaires, etc. Alors, donc, on se retrouve ici pour la quatrième et dernière table ronde de la journée, alors qui n'est pas conclusive en soi, hein, puisque je vous le rappelle, ce soir, il y a aussi une projection au Dietrich. Et demain, j'ai envie de dire, les débats dans la salle, etc., pourront continuer toute la journée. Alors, pour cette quatrième conférence débat, nous avons le plaisir d'accueillir donc Isabelle Sommier et Anne Dufresne. Alors elles interviendront respectivement sur, alors je cite donc pour Isabelle Sommier, l'altermondialisme, une contestation transnationale, point d'interrogation. Puis ensuite suivra Anne Dufresne avec une communication intitulée « Le salaire au cœur de l'eurosyndicalisme ». Alors j'en profite pour vous signaler que Anne vient de publier un ouvrage très récent, puisqu'il n'a que quelques jours. Elle nous en a emmené quelques-uns, notamment au fond. Alors, je lis « Le salaire, un enjeu pour l'eurosyndicalisme, histoire de la coordination des négociations collectives nationales ». Donc voilà, je vous laisserai découvrir en fin de débat cet ouvrage. Alors, comme précédemment, on va opter pour la même formule, avec une présentation d'une vingtaine de minutes pour chaque intervenant. J'essaierai de contrôler le temps. Et ensuite, bien sûr, avec un débat avec la salle pendant le reste du temps. Voilà, alors je vous laisse la parole.
Merci Pierrick, merci Bertrand et tous les organisateurs de ce festival. Je dois intervenir sur le mouvement altermondialiste, comme le disait Pierrick, avec un point d'interrogation, une contestation transnationale. Et d'emblée, je dirais que je me situe un peu dans la ligne politico-scientifique, je ne sais pas, qui a été celle de Nicolas et d'Hervé ce matin, hein, c'est-à-dire dans la ligne un peu du désenchantement ou du parti pris de la sociologie contre une vision enchantée quoi, du monde, et particulièrement quand on situe dans, qu'on se considère comme certes des scientifiques, mais avec une certaine empathie pour les mouvements sociaux, et a fortiori dans un espace qui est un peu à la frontière entre ces deux dimensions. Alors pourquoi une vision un peu peut-être désenchantée, hein, encore que je pense que je serais un peu moins négative, enfin, je pense que votre morale serait un peu moins atteinte qu'à la suite des deux communications de ce matin, hein. Eh bien, parce que depuis l'émergence officielle du mouvement dit altermondialiste, alors pour simplifier, hein, je vais toujours parler du mouvement altermondialiste, hein, je ne vais pas rentrer éventuellement si ça vous intéresse dans la discussion, hein, sur les enjeux et du label, hein, et les différentes propositions et évolutions, hein, du terme, hein, de l'antimondialisation à l'altermondialisme, qui est plutôt un terme donc dans l'espace francophone, et aujourd'hui remplacé aujourd'hui, hein, par un autre terme qui est très nettement d'empreinte nord-américaine et qui témoigne de la même façon que le disait Nicolas, hein, d'une ONGénisation, hein, du mouvement alter, on va dire, hein, avec le terme donc nouveau, hein, du Global Justice Movement, donc du mouvement pour la justice globale, hein, qui prévaut aujourd'hui. Alors, en tout cas, donc depuis cette émergence officielle, hein, qu'on fait remonter, hein, à la mobilisation anti-OMC qui s'est tenue bien en parallèle évidemment de la réunion de l'OMC à Seattle en novembre-décembre 1999, eh bien, ce mouvement altermondialiste a fait l'objet de nombreuses interprétations, commentaires, tant de la part des observateurs que des acteurs eux-mêmes, et puis quelquefois acteurs et observateurs sont les mêmes, hein, puisque une des particularités de ce mouvement, c'est pas propre, mais enfin je pense que c'est plus accentué dans ce mouvement, hein, c'est cette porosité, hein, entre les discours militants et les discours scientifiques, et la circularité, hein, souvent des analyses, hein. Et ces interprétations ont été généralement bienveillantes, hein, en saluant deux caractéristiques prétendues du mouvement et deux caractéristiques qui sont hautement valorisées dans nos sociétés, à savoir leur nouveauté et d'autre part leur dimension globale ou transnationale. Maintenant, on parle plutôt donc de global en raison du terme de Global Justice Movement. Alors, c'est surtout sur la question donc du caractère transnational ou global du mouvement sur lequel je voudrais m'arrêter. Et effectivement, contre une certaine vision militante, en y opposer la sociologie, hein, contre une vision un peu idéaliste et enchantée, hein, le parti pris du réalisme, hein, à l'appui de plusieurs enquêtes dont je vais vous parler au fur et à mesure que je les citerai. Il me semble en effet que lorsque l'on parle de ce mouvement comme d'un mouvement transnational, et bien très souvent on confond plusieurs choses, hein, et finalement on ne sait pas tellement de qu'est-ce qui est réputé transnational ou global dans cet objet. Est-ce que ce sont les organisations ? Est-ce que ce sont les enjeux qui seraient globaux ? Est-ce que ce sont les modes d'action ? Est-ce que ce sont les militants ? Au travers de la catégorie hypostasiée de la société civile internationale, là aussi, hein, qui avait été évoquée tout à l'heure par Nicolas. Est-ce que ce sont les cibles, hein? Et finalement, comme le disait déjà en 2004 feu Charles Tilly, hein, bon, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la sociologie des mouvements sociaux, Charles Tilly, ça a été vraiment un des plus grands, peut-être même le plus important chercheur états-unien qui a renouvelé la sociologie des mouvements sociaux. Il est décédé il y a 2 ans. Hein. Et il considérait déjà en 2004 que souvent, finalement, on confondait 2 choses. Les acteurs, qui restent, on va le voir, fondamentalement nationaux, hein, et d'un autre côté, leurs revendications, des revendications qui sont tournées vers le pauvre lointain, avec des effets, là aussi, qu'on a vu hein, ce matin. Hein, comment se conformer finalement à ce qu'est une bonne victime aujourd'hui hein, dans l'espace des mouvements sociaux hein. Des revendications donc tournées vers le pauvre. Peut-être attendre que la conversation se termine. C'est bien. Je reprends, oui, c'est bon. Ça y est, le bébé, ça va. Donc, est-ce qu'on ne confond pas donc les acteurs qui restent fondamentalement nationaux et leurs revendications donc tournées vers le pauvre lointain, vers la stigmatisation d'institutions internationales ou vers la mise sur agenda politique national hein, de problèmes définis comme globaux. Alors pour tester un petit peu hein, cette prétendue hein, orientation transnationale hein, du mouvement, eh bien, je vais voir examiner en quelque sorte les 4 termes hein, de ce qui est souvent évoqué pour qualifier ce mouvement de transnational. Et on va voir in fine que finalement, eh bien, c'est peut-être un peu plus compliqué que cela, hein, ces 4 thèses. Hein. La première, c'est de considérer que à cause globale, eh bien, correspond nécessairement des réponses globales. La seconde considère que l'on aurait, qu'on ferait face hein, à l'émergence alors, antérieure hein, au mouvement altermondialiste hein, qui débute avec autour des années 80, hein, mais particulièrement depuis le mouvement altermondialiste, à l'émergence d'un nouveau répertoire d'action collective à dimension donc transnationale. Troisième élément, ce mouvement serait l'expression d'une société civile transnationale. Et quatrième, il serait détaché des pesanteurs nationales. Et donc, c'est ces 4 questions que, évidemment, rapidement, donc, grosso modo, en 3 minutes pour chacune, je vais essayer de traiter. Alors, première assertion hein, qui a sous-tendu hein, l'essentiel des interprétations de ce mouvement, en tout cas à son départ, on va dire, hein, eh bien, c'est que on aurait là, hein, pour expliquer la simultanéité des révoltes contre le néolibéralisme ou contre la globalisation économique et financière, hein, on aurait là finalement l'expression hein, d'une révolte commune contre des processus identiques subis en même temps. Alors, quels seraient ces processus identiques auxquels eh bien, les acteurs répondraient logiquement hein, par une même réponse globale hein. Eh bien, là, on a 2 postulats. Hein, d'une part, à l'œuvre dans l'idée hein, d'une transnationalisation du monde. Hein, d'une part, l'affaiblissement de l'État au travers de la montée du rôle des institutions internationales, eh bien, serait l'expression d'un affaiblissement de l'État. Alors bon, là maintenant, de nombreux travaux, à commencer par Bayard, ont complètement remis en question cette idée que le développement des institutions internationales serait l'expression et participerait à l'évidement de l'État, pour montrer au contraire qu'on a un redéploiement du pouvoir des États au travers de ces institutions. Mais bon, c'est un débat entre internationalistes sur lequel... Je ne vais pas m'apesantir. Donc, on aurait un affaiblissement de l'État on aurait évidemment les conséquences désastreuses, à la fois d'un point de vue social et environnemental, du nouveau capitalisme contre lequel réagirait donc tout à fait logiquement et de la même façon, c'est-à-dire par une riposte globale, les organisations de mouvements sociaux qui témoigneraient ainsi d'une habileté à saisir l'opportunité politique de la tenue des réunions internationales et à s'adapter ainsi au glissement institutionnel, enfin décisionnel, opéré par la logique néolibérale d'affaiblissement et de fragilisation de l'État. Donc, postulat, on a un affaiblissement des États nationaux, on a une situation sociale et environnementale aggravée par le nouveau capitalisme, là, ce qui fait à peu près pas de doute. Donc, CQFD, eh bien, on a en réponse des organisations transnationales agissant globalement pour répondre à des problèmes globaux, en oubliant là finalement un principe élémentaire de la sociologie, il ne suffit pas qu'il y ait des causes objectives pour qu'il y ait des réactions nécessaires. Alors, est-ce que l'on a affaire à des organisations transnationales stricto sensu? Alors, si on reprend la définition que fait Guillaume Devin du transnational, considérant que dans un ouvrage qui s'intitule, qu'il a dirigé, Les solidarités transnationales, qui est paru à l'Harmattan en 2004. Et il définissait dans son introduction le transnational comme une structure d'organisation, c'est-à-dire un lien d'affiliation de plusieurs unités, cellules, sections, bureaux ou délégations réparties sur plusieurs territoires nationaux et qui participent tous à une relation de solidarité en tant que telle. Si on garde cette définition, solide du transnational, bien peu des acteurs du mouvement altermondialiste peut s'en prévaloir, à l'inverse, par exemple, de l'Association internationale des travailleurs. En effet, si l'on regarde la structure des organisations qui participent de l'espace altermondialiste en France comme dans d'autres pays, on voit que si l'on exclut les organisations que je qualifierais ad hoc, c'est-à-dire qui sont nées récemment, par définition, sur la cause lutte contre la mondialisation ou la globalisation financière, type attaque, si on exclut ces organisations qui sont très peu nombreuses, force est de constater que le dit mouvement altermondialiste, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, il est composé de groupes les plus divers, tant du point de vue de leur mode de structuration, des plus anciens où on retrouve toutes les strates finalement de l'histoire des mouvements sociaux, syndicats, associations, observatoires, clubs intellectuels, des plus divers tant du côté de leur cause, qui sont très largement antérieurs, et on a finalement un espace coopératif associant plusieurs familles de mouvements. Alors ça varie suivant les pays. Pour le cas français, des mouvements pionniers, ce sont les syndicats, les nouveaux syndicats, les SUD dont on a déjà parlé, les mouvements de sang, sans emploi, chômeurs précaires, sans papiers, sans droits en général d'ailleurs, les groupes troisième famille, les groupes de la gauche de gauche, les écologistes, quatrième famille, les écologistes, les mouvements environnementalistes, ensuite les associations humanitaires et de développement, ou encore les groupes de défense des droits de la femme et des droits de l'homme, au sens général. D'ailleurs, si on regarde ces organisations, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un quart d'entre elles ont été créées entre 69 et 89. Un autre quart a été créé après 95, qui marque en France la réorganisation du paysage contestataire, hein, et qui va être un moment charnière sans doute, hein, dans les mouvements contestataires de notre pays, hein. Et il n'y a que 21% de ces organisations qui naissent après 98, hein, et qui, de ce point de vue, représentent le mouvement altermondialiste stricto sensu, hein, c'est-à-dire des organisations créées pour lutter contre la mondialisation néolibérale. En d'autres termes, hein, le label l'altermondialisme, c'est plutôt un espace de coopération, hein, qui peut être rétractable, on va le voir, hein, et puis c'est surtout un label accueillant qui est à géométrie variable et qui est mobilisé par les acteurs selon les enjeux et les circonstances. Deuxième assertion, nous aurions affaire à l'émergence d'un nouveau répertoire d'action collective. Hein, c'est un concept qui a été créé par Tillid, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui avait montré, hein, que le répertoire, à la fois les modes de revendication et les formes d'action, on va dire, pour aller vite, hein, eh bien, s'adapter aux structures sociales et politiques, et que l'on pouvait observer, hein, le passage entre un répertoire d'ancien régime et un répertoire dit moderne à compter de la deuxième moitié du XIXe siècle, hein, avec le glissement d'une échelle locale de contestation à une échelle nationale, hein, correspondant à la nationalisation du champ politique, pour vous faire très vite. Et donc certains chercheurs ont considéré, hein, qu'au même titre qu'on assistait avec donc la nationalisation du champ politique au XIXe siècle, au glissement du niveau local au niveau national, on assisterait aujourd'hui à un glissement des actions protestataires du niveau national au niveau transnational, consécutif au même glissement du processus décisionnel de l'État-nation aux institutions internationales, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et on aurait donc un nouveau répertoire en transnational et solidariste, dit de troisième génération. Alors, cette question du troisième répertoire fait débat, mais est généralement repoussée, hein, par les spécialistes en estimant plusieurs choses. D'une part, que cette thèse, hein, repose sur une vision ahistorique, hein, qui oublie totalement, d'une part, que la solidarité internationale, elle n'émerge pas dans les années 80, hein, 1980, hein, mais elle existe au moins depuis le XVIIIe siècle, hein, puisqu'on peut considérer que les luttes contre l'esclavagisme, hein, eh bien, constituent au moins le premier mouvement international, hein, de solidarité internationale, et plus tard, bien entendu, les internationales. Et d'autre part, si l'on regarde les modes d'action qui sont utilisés aujourd'hui, hein, eh bien, aucun n'apparaît fondamentalement nouveau, sauf évidemment, hein, des mobilisations qui se tiennent à l'occasion de la tenue de réunions, enfin, des institutions internationales qui n'existaient pas auparavant. Cependant, il faut quand même noter là, hein, que ces institutions internationales offre en quelque sorte, hein, une opportunité aux mouvements sociaux, hein, ce que Tarot appelle, utilise la métaphore du récit de corail. Hein. On ne peut pas considérer que la mondialisation ou les institutions internationales créent ex nihilo, conduisent ex nihilo des acteurs non étatiques à se regrouper dans des actions transnationales communes, hein, mais en revanche, la tenue de ces institutions internationales, hein, sert de récit de corail aux acteurs non étatiques, hein, pour contribuer à créer des liens entre eux, hein, au-delà des frontières, hein, et comme espace de socialisation militante. Ces mobilisations, hein, donc à l'occasion des rencontres internationales, hein, permettent l'échange d'expériences, la circulation éventuelle des mots d'ordre entre militants, hein, et plus rarement de modes d'action, avec des cas réussis, mais souvent des cas d'échec, hein, de transfert de modes d'action. Hein. Je vous donne un exemple, hein, d'un échec et d'une réussite, hein, d'importation de l'espace nord-américain à l'espace français, hein, de modes d'action. Le boycott, qui n'a pas beaucoup de prise, qui n'a pas beaucoup pris en France. En revanche, un transfert qui a été plutôt et qui est d'ailleurs montant, c'est la thématique qui nous vient toujours du continent nord-américain, c'est la thématique anti-commerciale, avec en particulier le barbouillage, le cassage de pubs, etc. Et puis, les rendez-vous altermondialistes permettent de fixer un calendrier commun contestataire et peuvent déboucher sur des initiatives communes. Par exemple, lors du premier forum social européen qui s'est tenu en 2002 à Florence, eh bien, c'est là qu'avait été décidée l'organisation d'une manifestation coordonnée à l'échelle mondiale contre la guerre, qui aura lieu avec un grand succès d'ailleurs. Le 15 février de l'année suivante, c'est-à-dire en 2003. Ou autre exemple, c'est toujours à l'occasion de ce forum social européen, le premier donc, qu'il a été décidé de constituer un réseau européen et ensuite international des sans-voix. C'est le réseau Novox que peut-être certains connaissent. Donc là, vous voyez, je suis un peu plus positive, on va dire. Troisième question. Troisième assertion, alors là, vous allez voir, là, je ne suis pas du tout d'accord, on aurait, à travers ces mouvements, l'expression d'une société civile internationale. Alors, l'idée l'on a donc une société civile internationale, c'est d'abord une création militante elle-même. C'est-à-dire que les militants se sont d'emblée prévalus de représenter une société civile internationale. Par exemple, lors de cette mobilisation fondatrice de Seattle, elle se conclut par une déclaration des associations présentes, enfin d'une partie des associations présentes, qui est intitulée « Déclaration des membres de la société civile internationale ». Donc là, vraiment, le coup de force symbolique, par les com, on le sait, se qualifiant soi-même représentants d'une société civile internationale. Alors ça, les militants s'en prévalent, c'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental, c'est un élément de noblesse militante. Mais une partie des médias vont le reprendre, en tout cas lorsqu'ils vont être bienveillants, c'est-à-dire à peu près jusqu'en 2004-2005, vont là aussi les présenter comme tels. Alors, ça ne tient pas du tout quand on fait une enquête statistique, comme on a pu en faire à plusieurs reprises. Et là, je vais donner quelques éléments d'une enquête qui avait été réalisée auprès des participants au deuxième forum social européen qui s'était tenu en région parisienne en 2003. Donc une enquête par questionnaire pour cerner le profil socio-démographique, sociographique et militant et politique des participants, qui a montré finalement que ces participants partageaient des traits sociaux et politiques qui facilitaient la convergence de leur point de vue et de leur représentation, tant il était évident que le portrait sociographique qui en avait résulté montrait que les participants avaient un profil extrêmement homogène et tout à fait particulier, marqué par un très fort volume de capital social et de capital culturel, sans vous assommer de chiffres, puisque moi je travaille encore à l'ancienne, donc j'ai pas de PowerPoint, on a une très nette surreprésentation des professions intermédiaires, 44% des actifs interrogés professions intermédiaires, des cadres et professions intellectuelles supérieures, donc 42%, donc 86% des participants en professions intermédiaires et CPIS, évidemment tout à fait considérable, alors que on avait 0,6% d'exploitants agricoles, 2% d'ouvriers, 8% d'employés, par contre 9,6% sans activité professionnelle. Des militants qui partagent un très fort volume de capital culturel retenu, puisque 70% d'entre eux étaient diplômés du supérieur. Et comme on a fait d'autres enquêtes dans d'autres forums, ça ne fait qu'augmenter. Autre particularité, c'est la stabilité des emplois, 46%, mais là c'est très français, 46% travaillaient dans la fonction publique. Et puis, On avait quelque chose de tout à fait particulier également, c'est ce qu'on pourrait appeler des dispositions au cosmopolitisme. C'est quoi ces dispositions hein, qui favorisent donc cette orientation des militants vers le lointain hein, plusieurs choses, hein, c'est que les militants, je parle là que des Français, hein, les militants se distinguent de l'ensemble de la population par leur maîtrise des langues étrangères, puisque 80% des participants déclaraient parler au moins une langue étrangère, alors qu'on sait que ce n'est pas vraiment notre fort dans le pays, quoi, on va dire. Hein. Ils se caractérisent également par des liens professionnels et affectifs entretenus avec l'étranger hein, et marqués par une forte mobilité internationale ou au moins continentale pour des raisons professionnelles ou militantes. Hein, puisque près de la moitié d'entre eux avaient déjà vécu à l'étranger. Hein. Donc on a en quelque sorte un profil hein, qui semble d'une certaine manière calqué sur les élites transnationales qu'ils défient hein, par leur jeunesse, par le volume de capital, par l'orientation à l'international. Hein, mais, et c'est ce qui conduira à Sinetaro à parler de en termes de rooted cosmopolitan, c'est-à-dire des cosmopolites enracinés. Hein, alors, pourquoi des cosmopolites enracinés ? Cosmopolites parce qu'ils ont des ressources, donc ils sont suffisamment bien insérés dans les structures sociales pour avoir des ressources qui leur permettent de se projeter à l'international et dans les enjeux de l'international. Mais un cosmopolitisme enraciné, hein, d'une part, évidemment, parce que les salariés du secteur public sont surreprésentés, en tout cas dans notre pays, mais surtout parce que, bon là, je n'ai pas le temps de vous le dire, il faut me croire sur parole, hein, eh bien, ces altermondialistes, hein, eh bien, ils ont une très forte participation politique non conventionnelle, dite non conventionnelle à travers les mouvements sociaux, mais conventionnelle, c'est-à-dire à travers la participation électorale également. Hein, alors là, contre l'image qui était envoyée souvent par les médias, disant, bon, voilà, on a en fait des contestataires, des activistes, voire des gauchistes, hein, opposés aux citoyens. En fait, les plus activistes sont aussi les plus citoyens en termes de participation électorale, hein, d'implication également dans les partis, d'ailleurs. Mais surtout hein, parce que, donc, une forte implication dans la vie politique nationale, hein, mais aussi parce que les enjeux donc, politiques nationaux constituent une motivation importante de leur militantisme altermondialiste, hein, car lorsqu'on leur posait des questions sur le sentiment d'efficacité de leur participation hein, à cet espace de l'altermondialisme. Hein, bon, ils ne se faisaient pas trop d'illusions hein, sur la capacité de l'altermondialisme à transformer les orientations des institutions internationales. Mais en revanche, là où ils considéraient que leur action pouvait être efficace, c'était en tant qu'ils pesaient sur le champ politique national pour y agir comme groupe de pression et forcer leur gouvernement, en quelque sorte, à son tour, avoir une pression au niveau international. Ce qui m'amène à la quatrième assertion, a-t-on affaire à un mouvement détaché des pesanteurs nationales ? 2 minutes, ça va ? Oui. Alors, contre cette idée hein, d'un mouvement un peu en apesanteur, hein, au-dessus comme ça, au-dessus des frontières, hein, eh bien, qu'est-ce que l'on voit alors à travers d'autres enquêtes, hein, des enquêtes européennes hein, qui ont été conduites pour comprendre la généalogie du mouvement dans chacun des pays considérés, hein, et ensuite pour voir l'évolution hein, des groupes, des espaces altermondialistes nationaux hein, dans l'investissement dans l'altermondialisme hein, sur plusieurs années. Donc ça, c'était une enquête européenne conduite en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie et en Suisse. Voilà. Et puis, on avait fait une enquête au Forum social européen d'Athènes, mais on n'a pas suivi la question de l'altermondialisme en Grèce. Alors, deux éléments. Hein. D'une part, ces enquêtes ont montré des ressorts nationaux de l'émergence de l'altermondialisme. En comparant ces pays, hein, eh bien, la comparaison a fait tomber une certitude réputée, hein, qui est celle de l'existence d'un mouvement altermondialiste. Il n'y a pas un mouvement altermondialiste, mais au contraire, hein, une variété des groupes participant à l'espace de l'altermondialisme dans chacun des pays, hein, et des pionniers très différents. J'appelle les pionniers, hein, ceux qui ont été moteurs dans l'émergence, dans les pays considérés, dans l'émergence de cette nouvelle cause. Donc, une variété en des pionniers. Je l'ai dit, hein, pour la France, plutôt, hein, les nouveaux syndicats, les associations de sang et la réorganisation de l'espace des OSI, des organisations de solidarité internationale, avec la création du CRID. C'est assez proche pour l'Italie. Hein, on a parmi les pionniers, hein, en fait, bah, les deux gros pôles traditionnels du militantisme en Italie, hein, c'est-à-dire le pôle ex-communiste, hein, et puis et d'autre part les organisations d'empreinte catholique de solidarité. Pour ce qui est de l'altermondialisme en Grande-Bretagne, c'est très clairement les mouvements environnementaux et écologistes qui ont été pionniers, hein, et pour l'Allemagne, par exemple, les 10 nouveaux mouvements sociaux. Hein. La comparaison a révélé également, hein, des traits politiques nationaux communs à l'investissement dans la nouvelle cause. En particulier, hein, très clairement, on a affaire dans ce militantisme altermondialiste, hein, à l'expression d'une déception des militants de gauche, parce que c'est un mouvement de gauche, ça, ce qui n'a rien de... Enfin, ça ne vous étonnera pas. L'expression d'une déception pour les expériences de la gauche au pouvoir, voire le divorce entre la gauche institutionnelle et la gauche que je qualifierais de mouvementiste. Et puis, outre ces traits communs, hein, la déception et la fracture, hein, entre la gauche institutionnelle et la gauche de mouvement des associations, etc., hein, eh bien, on a d'autres effets nationaux propres, hein, comme les effets produits par la réunification de l'Allemagne, hein, sur le secteur associatif, hein, qui va conduire à une manne financière, hein, qui va conduire donc à l'émergence de nouveaux groupes, etc. La crise de la République italienne, hein, qui a conduit là aussi à cette réorganisation, hein, ou pour la Grande-Bretagne, hein, ce mélange, hein, ce ferment de révolte, constitué à la fois par les mobilisations contre la poll tax, la politique autoroutière absolument désastreuse, mais aussi les lois contre les rêve parties, par exemple, hein, qui va constituer un maelstrom, en quelque sorte, de rébellion. Hein. En d'autres termes, l'émergence du mouvement dans chacun des pays, il obéit à des opportunités, à des occasions nationales qui renvoient à des dynamiques propres au champ politique, hein, et en particulier, hein, à l'évolution des rapports entre les partis de gauche, les syndicats et les organisations dites de mouvement social. Deuxième élément, et j'en terminerai par là, sur l'évolution, hein, eh bien, je disais tout à l'heure, c'est un espace coopératif, hein, et donc élastique, qui est facilement rétractable dès lors que des enjeux nationaux semblent s'imposer et nécessiter un réinvestissement des énergies militantes sur l'espace national et non pas sur l'espace, on va dire, de l'altermondialisme. En d'autres termes, on repère, hein, un recentrage donc sur ces enjeux. Hein, l'orientation transnationale, hein, entre guillemets, hein, des organisations du mouvement altermondialiste n'est absolument pas constante. Hein, on constate en Allemagne, avec la mobilisation contre la réforme Schröder Agenda 2010, ou évidemment en France, après la campagne contre le TCE, campagne couronnée de succès en mai 2005, en une réorientation des investissements et des énergies militantes, hein, sur des enjeux militants, enfin, les enjeux du domestique, on va dire, hein, évidemment la question des retraites, hein, et puis ensuite la mise en suspens, hein, de nouveaux fronts, hein, avec ce long serpent de mer qu'a été la tentative de passage aux politiques, hein, avec l'idée de constituer, donc de trouver une candidature unitaire, hein, pour les présidentielles de 2007, avec le succès que l'on connaît. Donc, Bon, enfin, ce qui a été une catastrophe, quoi, on va dire. Donc, la marque, en quelque sorte, en altermondialiste, elle peut rester, hein, mais elle est déclinée hein, sur des enjeux immédiats, plus proches. Hein, en d'autres termes, enfin, je ne veux pas dire par là hein, qu'il ne faut absolument rien voir de transnational dans ces mouvements, hein, mais en tout cas, il faut être prudent hein, et ne pas reprendre cette catégorie hein, du transnational, hein, en tout cas dès lors que ce concept est souvent utilisé comme une machine de guerre hein, pour désigner une sphère d'action qui serait autonome, hein, autonome de logique nationale considérée comme agonisante. Hein, et puis surtout, voir hein, que ces investissements entre le niveau local, national, voire transnational, hein, eh bien, c'est un continuum hein, qui évolue, hein, qui se déplace hein, avec des acteurs souvent identiques. Hein, et j'en terminerai par là pour ne pas dépasser. Merci.
Alors, on va essayer de refaire partir l'ordinateur, sans forcément qu'il y ait des conversations qu'on puisse entendre. Alors, est-ce que ça va fonctionner cette fois ? Je ne sais pas du tout. Thierry, peut-être ?
On va y arriver. Voilà. J'espère que ça va faire écho maintenant. Ok, bon. Eh bien, voilà, donc merci beaucoup à l'équipe de Raison d'agir. Je suis vraiment très, très contente d'avoir déjà entendu tout ce que j'ai entendu. J'ai beaucoup appris. Je suis aussi très heureuse de vous exposer mon travail de recherche. Donc, et j'espère que ça va susciter un débat intéressant par la suite. Et d'ailleurs, j'aurais déjà beaucoup de questions par rapport au recoupement avec Isabelle. Donc, mon exposé s'intitule « Le salaire au cœur de l'eurosyndicalisme ?» Point d'interrogation. Là, j'ai mis un point d'interrogation, même si sur le livre, il n'y a pas de point d'interrogation. La question de l'eurosyndicalisme, ou plus généralement celle des relations industrielles professionnelles européennes, est souvent traitée sous l'angle de l'européanisation, du dialogue social européen. Donc, quand on parle en général syndicalisme européen, c'est vraiment dans ce contexte de dialogue social européen. Ici, je l'aborde sous un tout autre angle, puisque c'est celle de l'européanisation du salaire. Le salaire qui a longtemps été donc un objet en creux à ce niveau de l'Union européenne. Donc tout d'abord, voyons le gouffre qui sépare le niveau national et le niveau européen en matière de salaire. Au niveau national, historiquement, le salaire, il est bien au cœur de l'identité syndicale. Vous savez tous que la lutte syndicale a permis de forcer la délibération collective en négociant des barèmes, il y a des grilles de qualification. Et c'est bien le syndicat qui est l'acteur clé qui a permis la constitution du salaire comme un droit négocié. Donc un droit négocié et non pas un prix de marché fixé unilatéralement par l'employeur comme c'était le cas au XIXe siècle. Ce droit négocié est un droit conquis de haute lutte. Mais à l'échelle de l'Union européenne, on va voir que les eurosyndicats, ils ont très longtemps abandonné la revendication en matière de salaire. Et cette revendication est restée un point aveugle, je dirais. Tout occupés qu'ils étaient justement par le dialogue social, le fameux dialogue social européen, dont le salaire est justement exclu. Donc la question principale que j'aimerais mettre en débat aujourd'hui, c'est celle-ci. Les eurosyndicats peuvent-ils inventer de nouvelles formes d'action collective européenne leur permettant de renouer avec la tradition syndicale de la défense du salaire? Donc pour y répondre, j'utilise des données que j'ai recueillies depuis une dizaine d'années puisque je travaille à Bruxelles et mon terrain est donc celui des eurosyndicats que sont la Confédération européenne des syndicats d'une part et les fédérations syndicales européennes d'autre part, qu'on connaît moins, sont les 12 fédérations de branches européennes, dont la plus connue peut-être est celle de la Fédération européenne des métallurgistes, la FEM. Donc, tout d'abord, commençons par des chiffres, un constat statistique irréfutable. Depuis plus de 30 ans, au sein de l'Europe, on constate qu'il y a une redistribution massive des revenus du salaire vers le capital. La part des salaires dans le revenu national a décliné de manière continue. Donc là, c'était un beau graphe de Michel Husson que je conseille vraiment de lire sur la modération salariale. Je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Hussonnet. Donc, c'est vraiment... Il a beaucoup écrit. Il nous livre des tableaux et des chiffres toujours très, très... très d'actualité. Donc ici, il montre que la part salariale, en effet, a chuté de 8% entre 1980 et 2010 en Europe. Donc on voit comment la modération salariale s'est installée comme une nouvelle norme en Europe. La modération salariale désigne finalement une mesure économique qui vise le ralentissement de la croissance des salaires réels. Et on le voit sur la ligne du haut. Le ralentissement des salaires réels, c'est-à-dire le ralentissement du pouvoir d'achat. Donc ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de montrer comment, malgré cette chute vertigineuse de la part des salaires, la revendication en matière de salaire est restée un point aveugle à l'échelle de l'Union. Donc le carcan macroéconomique a marginalisé le salaire dans la sphère de l'Union. Comment ? Au moment de Maastricht, donc vous vous souvenez tous de Maastricht, vous avez pu voter oui ou non à l'époque. Hein. Au moment de Maastricht, la désinflation compétitive par le jeu des taux de change était devenue impossible et c'est le salaire qui est donc devenu la principale variable d'ajustement du système de l'Union économique et monétaire. Donc ce salaire, à ce moment-là, il existe déjà à l'échelle de l'Union, mais comme variable d'ajustement macroéconomique. Les institutions européennes, quand elles parlent de salaire, elles en font, en fait, dès ce moment-là, hein, dès Maastricht, un élément perturbateur. Un élément perturbateur d'un système économique où l'harmonie est conçue autour d'une inflation la plus faible possible et de taux d'intérêt relativement élevés, ce qui est le credo de la Banque Centrale Européenne. Donc, à Maastricht, le salaire est donc une variable d'ajustement d'une part, mais il devient aussi, et c'est très très important, une matière non légiférable à l'échelon de l'Union européenne. Le traité stipule explicitement, là je cite, que la communauté n'apportera ni appui ni soutien aux activités des États membres en matière de rémunération. Donc c'est une clause de Maastricht qui est ensuite reconduite dans les traités suivants d'Amsterdam et de Lisbonne. C'est l'article 153.5, un article central en matière d'eurosyndicalisme. L'exclusion donc du salaire. Mais cet article, il exclut donc explicitement de la capacité législative communautaire non seulement les salaires, mais aussi les droits d'association et de grève transnationaux. Donc c'est l'ensemble de ces droits correspondent évidemment aux conditions élémentaires pour la constitution d'un système de négociation collective à cette échelle. Donc, le carcan macroéconomique d'une part, mais aussi dépolitisation du salaire dans l'Union européenne. Le salaire n'est pas considéré à cette échelle comme faisant l'objet d'une délibération politique. Donc ce n'est pas la négociation collective, le droit négocié conquis dont j'ai déjà parlé, mais il se retrouve ici réduit à un indicateur de coût du travail. Ça devient un indicateur de coût du travail. Et ceci dans le discours de la Banque centrale européenne depuis qu'elle est née, c'est-à-dire en 1999. Et donc Eurostat crée à la naissance de la BCE même, partout en Europe, une statistique du coût unitaire de main-d'œuvre, le coût unitaire de main-d'œuvre, donc le CUM, qu'on va retrouver aujourd'hui, là, dans le pacte pour l'euro, tout récent, qui apparaît maintenant au grand jour. Donc, c'est pourquoi. C'est pour ça que j'ai centré la fin de mon exposé sur l'actualité, parce que c'est devenu vraiment... Le salaire apparaît finalement à cette échelle de l'Union tout récemment. Donc la BCE, elle argumente pour modérer les revendications. Elle parle dès le départ, hein, dès 99 et jusqu'à aujourd'hui, hein, de nécessaire modération qu'elle doit obtenir par la responsabilisation des syndicats. Et donc là, on a... moi, j'ai pu étudier les bulletins mensuels de la BCE depuis l'origine, et il y a des coupés-collés de paragraphes entiers qui reviennent systématiquement tous les mois, où on retrouve cette logique. Au cours des années 80 puis 90, sous la pression donc du chômage de masse, la plupart des syndicats européens ont aussi révisé leurs revendications à la baisse. Parce que donc on a vu que pour la CES, pour devenir un partenaire dit responsable, selon les termes de la BCE, il fallait qu'elle accepte la modération salariale. La CES, certes, mais aussi donc, la plupart des syndicats nationaux qui ont donc révisé leurs revendications à la baisse d'une part, négociant sous la menace de la compétitivité, et là apparaissait déjà donc, cette menace de la compétitivité nationale, et faisant primer aussi, pour baisser les salaires, la conservation des emplois sur la hausse salariale. Là, c'est vraiment l'idée de l'emploi contre le salaire. L'emploi devient vraiment une arme utilisée contre le salaire. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là, hein, si on analyse les banderoles des manifestations syndicales, on voit que les banderoles changent de l'augmentation des salaires qui étaient réclamés jusqu'alors, on arrive à la priorité à l'emploi. C'est l'emploi qui domine les banderoles. Donc ça, c'est vraiment très, très marquant. Les syndicats ont troqué la redistribution de l'emploi contre la redistribution de la richesse dans cette période du début des années 80. Mais donc à l'échelle de l'UE, au début des années 90, la CES a ensuite accepté donc cette modération des salaires comme un mal nécessaire. Et là, j'ai une petite citation assez croustillante d'un ex-secrétaire général adjoint de la CES début des années 2000 qui dit « La CES pensait que la modération salariale était un moment nécessaire dans une période de chômage très importante. » Donc avec toujours cette justification par le chômage, on pensait qu'on devait faire cet effort dans l'intérêt de l'emploi. Puis on s'est senti trahi et trompé par les employeurs, car la part salariale n'a cessé de régresser sans que l'embauche ne s'améliore. Donc c'est la priorité à l'emploi qui était donc bien un leurre, et les syndicats ont pu être dupés en partie. Donc On constate donc là toutes les contraintes politiques qui sont exercées sur le salaire au sein de l'Union européenne. Mais c'est dans ce contexte que j'envisage maintenant justement la difficulté des syndicats à la CES, mais aussi dans les fédés de branches européennes et dans les départements Europe des syndicats nationaux, à évoluer vers une construction transnationale de cette revendication salariale par la coordination des négociations collectives. Donc, cette construction transnationale est difficile. Depuis le début des années, surtout dans le contexte que je viens de décrire, avec ce carcan macro et cette idéologie de la modération. Donc, depuis le début des années 90, certains syndicats se sont engagés dans des stratégies de coordination des négociations collectives nationales qu'on connaît très peu. Donc partout où on parle d'Europe syndicale, Europe sociale, c'est le dialogue social qui est mis en avant, comme je l'ai déjà dit. Or, il y a aussi ce type d'initiative qui existe et qu'il faut bien voir comme des processus de très très long terme. L'objectif de ces initiatives, c'est bien donc à court terme de lutter contre le dumping salarial. Ça, c'est un objectif affiché par ces stratégies. Et à plus long terme, de développer, disons, une coopération substantielle entre les syndicats, c'est-à-dire en fait de créer un tissu intersyndical européen, un tissu entre les syndicalistes des différents pays de l'Union pour aller vers une négociation collective européenne. Donc ça, quand je dis ça, c'est à très très long terme et dans une fiction politique. Donc on va voir que cette tâche est très complexe et cet exercice très difficile. Donc là, je n'ai pas le temps de m'attarder sur la façon dont les syndicats agissent par ces stratégies. C'est ce que je développe dans le livre, parce qu'il me semble que ce sont justement des pistes de réflexion vraiment intéressantes pour monter la revendication du salaire. Mais ce qui est important de voir, c'est que la coordination s'inscrit dans une logique donc d'européanisation du syndicat. Ici, je prends l'exemple des fédérations syndicales européennes, les FSE, dont j'ai parlé. Donc, c'est en particulier la Fédération européenne des métallurgistes, qui est la pionnière donc, en matière de stratégie de coordination salariale. Comment font-elles? Comment ça se passe-t-il, la coordination? En fait, ce qui est important de voir déjà, c'est que c'est une démarche tout à fait autonome. Autonome au plan syndical, hein, c'est-à-dire qui a lieu en dépit de l'absence d'interlocuteur patronal européen. Et ça, bon, je ne parlerai pas ici beaucoup de l'europatronat, parce que je n'ai pas le temps, mais simplement dire que du côté patronal européen, il n'existe en effet aucune coordination explicite. Au contraire, donc l'acteur est très diffus, on est dans la non-représentation et les fédérations patronales européennes ont le pouvoir, je dirais, le pouvoir de non-décision. Elles refusent toute idée de négocier ou même toute idée d'aborder le dialogue sur les salaires. Elles applaudissent à deux mains quand la Commission européenne ou la Banque centrale européenne mettent maintenant les salaires justement en avant, mais elles restent en retrait puisqu'elles se refusent d'être un interlocuteur, préférant rester un lobby auprès de la Commission européenne. Donc ça, c'est le cas tant des fédérations patronales européennes de branche, les FEBI ici, peu importe les acronymes, mais aussi au niveau interpro de Business Europe qui a la même attitude. Donc, finalement, les fédérations syndicales européennes ont une démarche autonome en dehors donc de tout lien avec l'organisation patronale dans un premier temps, et elles créent donc des comités de coordination. Donc il y a 12 FSE, sur les 12, il y en a que 8 qui coordonnent, mais en particulier la FEM. Et donc elles vont tenter de coordonner les fédérations syndicales nationales dans un comité sur les enjeux syndicaux nationaux que sont le salaire en particulier, mais aussi le temps de travail, la formation, etc. Donc, si vous voulez, on reviendra sur la stratégie, mais là, je ne développe pas. Ça se développe autour de critères communs, c'est très compliqué, puisqu'il faut qu'elles échangent à 27 syndicats, qu'ils fassent des comparaisons entre le système de négociation collective, etc. Mais c'est justement cette transnationalisation de la revendication. Donc ces stratégies, elles s'ancrent dans les capacités de négociation des syndicats qui existent d'ores et déjà au niveau national. C'est ce qui est très différent du dialogue social qui, lui, plane sur les politiques communautaires de la Commission européenne. Donc je considère bien que cette histoire des stratégies de coordination, c'est un point de départ utile pour l'européanisation du syndicat et l'européanisation de la négociation collective. Maintenant, donc, simplement, évidemment, c'est comme je l'ai déjà dit aussi, il y a eu pour le moment très peu de retombées au niveau national. Vous n'entendez jamais parler de ces histoires. Étonnamment, en fait, les retombées qui ont pu avoir lieu se sont faites dans les pays de l'Est. Enfin, étonnamment, pas forcément, parce que c'est là qu'il y en a aussi le plus besoin, mais... En Bulgarie, par exemple, la norme salariale de la Fédération européenne des métallurgistes a été utilisée dans les négociations en cours. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a quelques retombées, mais globalement, ici, en Europe de l'Ouest, on en entend très peu parler. Mais donc, pour le moment, ça reste donc de l'ordre de déclaration d'intention, ce genre de critères communs. Et ça risque même d'empirer avec la pression actuelle du pacte pour l'euro. Et donc là, je vais venir à l'actualité récente, parce que depuis quelques mois, l'avenir de ces coordinations dont j'ai parlé comme étant des pistes de réflexion très intéressantes, et plus incertain encore, étant donné la tournure qu'a pris aujourd'hui la coordination des salaires, coordination qui n'est plus donc une coordination syndicale, mais une coordination à la baisse par le pacte pour l'euro. Donc, quand je dis depuis quelques mois, il a été adopté très récemment en réalité. Hein, c'était le 25 mars dernier. Ce pacte, c'est un pacte qui mène à une spirale vers le bas des salaires. Il se place dans la continuité, en fait, donc tant de l'union économique et monétaire et du carcan macroéconomique que j'ai décrit tout à l'heure, que du pacte de stabilité et de croissance, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est donc un pacte en matière de coordination budgétaire avec des critères qui sont ceux de Maastricht. Donc le pacte pour l'euro, là où il est nouveau, c'est qu'il introduit un nouveau mécanisme de surveillance macroéconomique et pour la première fois, il y a une intervention sur les salaires. C'est-à-dire qu'auparavant, les critères de convergence étaient des critères sur la dette et le budget en particulier. Et là, depuis le mois dernier, donc, il y a une intervention potentielle du niveau européen sur le niveau national en matière de salaire. Alors même que, comme vous l'avez vu, l'article 153.5 exclut a priori toute intervention. Donc les salaires sont désormais visés explicitement dans le cadre de surveillance macro. Ce cadre de surveillance étant piloté principalement par les institutions économiques que sont la Banque Centrale Européenne, la DG ECFIN et les ministres de l'Économie et des Finances. Donc il y a vraiment eu une task force qui a monté ce pacte pour l'euro sous l'impulsion de Merkel et Sarkozy, puisque le premier pacte était un pacte franco-allemand qui a ensuite été généralisé à l'ensemble des pays. Et donc, il introduit cette coordination à la baisse sur les salaires. L'idée, c'est qu'en cas de dépassement de seuil du fameux COUM, du coût unitaire de main-d'œuvre, il y a une procédure qui s'enclenche avec des recommandations puis des sanctions à la clé. Donc ce pacte pour l'euro est vraiment, il introduit une coordination des salaires sous le critère de la compétitivité. Et ça aussi, on l'avait déjà vu, c'est venu dès le début des années 80, mais maintenant c'est formalisé, c'est ancré à l'échelle de l'Union, c'est institutionnalisé. Alors qu'avant, c'était plutôt dans les bulletins mensuels de la BCE, donc on s'y intéressait moins. Le pacte pour l'euro, il a introduit donc ce critère de compétitivité en matière salariale. Et c'est très dangereux, évidemment, puisque ce mot compétitivité veut bien dire une mise en compétition des salariés entre eux, une mise en compétition ouverte, brutale. Cette décision, finalement, c'est la décision ouverte de laminer les salaires. Donc, mais cette compétitivité, c'est par rapport à qui exactement ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis une dizaine d'années, c'est l'Allemagne qui pratique une politique de modération salariale forte. C'est en Allemagne que l'évolution des salaires a été la plus défavorable entre 2000 et 2009, sur la dernière décennie. Pour vous donner un chiffre, les salaires réels allemands ont baissé de 4,5%. Donc, en fait, le pouvoir d'achat des travailleurs allemands a baissé de 4,5%. Alors qu'en France, sur la même période, les salaires réels ont augmenté de 8,6%, et en Finlande, par exemple, de 22%. L'Allemagne, c'est donc le pays record en termes de modération salariale. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec ce critère de compétitivité imposé maintenant avec ce mécanisme de surveillance sur les salaires, ça veut dire que ce nouveau système implique que les salaires des pays de la zone euro seront maintenant soumis à la pression, seront sous la pression par la politique de modération salariale allemande qui bat donc tous les records. Donc comment parvenir à cette modération selon le pacte pour l'euro ? Là aussi, c'est explicité, la méthode pour la modération salariale, l'Union européenne s'immisce donc dans les négociations sociales. Comment faire en fait pour s'aligner sur la modération salariale allemande ? L'UE prescrit, quand je dis l'UE, c'est la task force de la Banque centrale européenne, la DG ECFIN et du Conseil ECOFIN, qui sont donc finalement ceux qui pour le moment ont un discours sur le salaire à l'échelle de l'Union. Donc qu'est-ce qu'ils proposent pour modérer les salaires ? Ils proposent de réexaminer les dispositifs de fixation des salaires. Donc ça, c'est dans le pacte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement intervenir dans l'autonomie des interlocuteurs sociaux nationaux. Ça veut dire remettre en cause les systèmes de négociation collective nationaux. Ça s'est déjà fait plus ou moins en Grèce, qui a vu les salaires dans les services publics gelés. Deuxième point, réexaminer le degré de centralisation du processus de négociation. Ça veut dire quoi ? Réexaminer le degré de centralisation, en réalité, ça veut dire décentraliser la négociation collective, multiplier les clauses dérogatoires dans les conventions collectives sectorielles et développer la négociation collective d'entreprise. Donc, cette décentralisation vers l'entreprise, elle n'est pas nouvelle. Hein, ça fait depuis très très longtemps, depuis le début des années 80 qu'elle existe. Mais maintenant, elle est clairement annoncée comme étant un critère à suivre par l'ensemble des États membres. Troisième point pour la modération, veiller à ce que les accords salariaux dans le secteur public viennent soutenir les efforts de compétitivité consentis dans le secteur privé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est demandé au gouvernement de presser les salaires dans le public, comme ce qui a été fait donc, en Grèce. Donc là, on a vraiment des recommandations très très claires et très très brutales pour la première fois. Donc moi, j'étudie cette question depuis une dizaine d'années, et là, je dois dire que depuis le mois passé, je suis assez perturbée. cette attaque frontale contre les salaires à partir de l'échelon de l'UE est très très violente. Quelles sont donc les perspectives et les euro-revendications envisageables à partir de là ? J'en conclurai là. Donc, dans ce contexte, pour le moment, les stratégies de coordination dont j'ai parlé tout à l'heure n'ont pas permis de développer une politique syndicale très offensive, comme je l'ai dit, en matière salariale. La coordination n'a pas amené même à un alignement des politiques syndicales nationales, comme ce qui était l'objectif, hein, éviter le dumping salarial. Mais étant donné maintenant l'urgence de la réponse à ce pacte, qui vise donc explicitement les salaires pour la première fois, comment parvenir à une coordination, à la hausse, ayant pour objectif des euro-revendications syndicales. Et ceci pour provoquer aussi l'interlocuteur patronal qui, comme vous l'avez vu, est absent en la matière et qui se défile sans cesse. Je dirais que, il y a évidemment la création de ce tissu intersyndical dont j'ai déjà parlé, qui est essentiel, puisqu'il n'y a que par la création de ce tissu, de ces relations entre les syndicats des différents pays, que les centrales nationales pourront accepter peu à peu de lâcher de leur souveraineté pour un mandat européen au niveau supranational. Alors évidemment, ça pose encore la question de l'article 153.5, qui est maintenant un peu, c'est compliqué, puisque à la fois la CES dit non, puisqu'il y a une attaque en règle contre les salaires, alors il faut au contraire maintenir cet article, et d'un autre côté, pour pouvoir agir et par exemple revendiquer le salaire minimum européen, au contraire, il faut le maintenir. Donc c'est assez ambigu, ça devient justement de plus en plus difficile cette question est assez difficile à régler pour le moment. Mais l'élément essentiel, évidemment, c'est aussi la mobilisation collective transnationale pour aller donc vers cette négociation collective européenne autonome. Et là, sur ce point, on peut avoir quelques espoirs, même si très, très légers. En avril 2008, les syndicats sont rassemblés à Ljubljana, je ne sais pas si vous en souvenez, ça n'a pas fait la une de la presse, hein. Mais il y a eu quand même plus de 30 000 syndicalistes européens pour une euromanifestation organisée donc en Slovénie pour appuyer deux revendications très importantes. Une augmentation des salaires, cette fois-ci, ce n'était pas sur l'emploi. C'était justement la première euromanifestation, avril 2008, sur le salaire. Une augmentation des salaires et une répartition plus équitable des bénéfices. C'était le slogan de la manif. C'était évidemment assez novateur en termes de remanif. Il n'était donc plus question de priorité à l'emploi, mais bien d'augmentation des salaires. Donc 2008, c'est cette toute première euromanifestation portant sur les salaires pourrait faire penser que la mise en place d'un salaire minimum européen, qui apparaissait aussi beaucoup dans cette manifestation, pourrait être un facteur de mobilisation collective à l'échelle européenne à plus long terme et en réponse à ce pacte pour l'euro. Ce scénario-là pourrait redonner une légitimité, puisque vous savez très bien que la CES est très décriée, hein, une légitimité donc aux eurosyndicats en matière de fixation des salaires au niveau supranational. Car si les salaires doivent être traités donc à l'échelon de l'UE, c'est aux interlocuteurs sociaux évidemment de s'en emparer, sachant que le patronat s'y refuse, mais non pas à la Banque Centrale Européenne ou à la DG ECFIN qui donc pilote ce processus maintenant de modération salariale. Mais évidemment, ce chemin risque d'être très 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 long.
Une question extrêmement naïve et bêtement politique, mais pour lancer le débat peut-être, ce qui ne peut que frapper en vous écoutant l'une après l'autre, c'est l'extraordinaire écart entre les stratégies et les formes même des mobilisations des acteurs, mobilisation au sens large, quand on va de la scène des mouvements sociaux, pour dire vite, à celle du syndicalisme, comme si le syndicalisme et le rapport négocié du salaire ne s'étaient pas imposés à force de lutte et d'imposition au comité des forges ENCO de la nécessité de réguler quelque chose dans le rapport salarial. Et encore a-t-il fallu des grèves, du sang, de la répression, et encore ça n'a même pas suffi dans un pays comme la France, il a aussi fallu la résistance, la libération et quelques autres épisodes. Donc voilà, j'ai bien entendu l'introduction, c'est un rapport négocié. Donc si c'est un rapport négocié, négocions, et pour négocier, il nous faut un interlocuteur. En même temps, la stratégie de la CES et des acteurs syndicaux européens sont tellement rentrés dans le cadre institutionnel qu'on a l'impression qu'ils ne peuvent en sortir. Je ne sais pas si Isabelle peut réagir à cela aussi. En tout cas, la faiblesse, on peut dire ça autrement, ça renvoie aussi à la faiblesse ou à la non-durabilité de l'engagement des syndicats, par exemple dans les euro-mobilisations, les euro-manifestations. Il me semble qu'elles ne l'ont fait qu'à des moments extrêmement circonscrits et qu'elles n'ont pas tenté, ou peu en tout cas, pour ce que j'en sais, pour le cas de la France par exemple, à chaque fois qu'il a fallu organiser une manifestation européenne, on a pu compter que sur quelques franges de la FSU et qui agissaient au nom de la FSU tout entière, mais bien évidemment il n'y avait pas la FSU tout entière, solidaire, quelques bribes de la CGT et pas grand chose d'autre, comme si les syndicats français étaient complètement obnubilés par leur entrée dans la CES. Donc c'est l'absence d'articulation entre le mouvement et les organisations, vieille topique, mais quand même qui frappe en vous écoutant, quoi, sur la déconnexion entre les deux.
Oui, moi, une question sur le deuxième exposé. J'étais étonnée que quand vous avez parlé de l'absence de coordination du patronat européen. Donc, est-ce que vous pourriez développer ce point ? Merci.
Je voulais savoir, par rapport à cette idée du salaire, là, si... parce que... En fait, cette restriction sur les salaires, elle doit provoquer aussi, vous l'avez dit à plusieurs reprises, elle joue sur le pouvoir d'achat. Donc, par rapport à des États qui sont déjà très endettés, ça pose des problèmes au niveau des rentrées, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition à l'intérieur de la communauté européenne sur cette idée des salaires ? Et l'idée que j'ai derrière la tête, c'est finalement, on a l'impression que les syndicats, ils sont peu armés, d'après ce que vous avez décrit, pour lutter contre ce contrôle des salaires, et on a l'impression, pour reprendre une thèse qui circule en ce moment, que finalement, on a l'impression que le capitalisme risque de s'écrouler sous ses propres failles, quoi. Et que finalement, est-ce que finalement, par exemple, cette politique d'austérité qu'on mène actuellement, même la droite ne sont pas très convaincus, Christine Lagarde parle de mauvaises solutions, on fait pas mieux. Bon, est-ce que c'est des débats que vous avez retrouvés à la Commission européenne, ou est-ce que là... finalement, ce contrôle des salaires est quelque chose qui fait l'unanimité, ou bon, ils sont bien conscients quand même que c'est habillé. Bon. Habillé Paul pour déshabiller. C'est déshabillé Paul pour. Enfin bon, vous compris quoi.
Isabelle Bon, je ne suis pas sûre de pouvoir dire des choses très intelligentes sur la question que Bertrand m'a posée, sur cette déconnexion entre les syndicats et les mouvements sociaux, au sens large, on va dire. Hein. Je pense que, bon, d'abord, ça dépend dans quel pays, hein, parce que quand même, les syndicalistes français sont plus offensifs, et les Italiens aussi d'ailleurs, plus offensifs que les autres. Hein. Bon, après, il y a tout le jeu, évidemment... mais Anne-Catherine Weiner l'a bien montré, hein, de la distance entre finalement le modèle européen, de la Confédération européenne, qui ne colle pas du tout avec le modèle syndical français, hein, et les contraintes effectivement de la CGT en termes d'habitus et puis en termes effectivement de stratégie, hein, pour finalement être accepté dans la Confédération. Ce que je pourrais dire également, c'est que en fait, les syndicats qui se sont impliqués et qui ont été très actifs dans l'émergence de cette cause, et d'abord, par exemple, dans l'organisation des marches européennes contre le chômage et la précarité à partir de 1997, hein, qui associait donc des organisations de sang et certains syndicats, hein, ce qu'on remarque, c'est toujours des syndicats qui ont connu, d'abord, qui sont marginaux, hein, qui sont radicaux et marginaux dans le champ national. Mon exemple, évidemment, les Sud. Hein, et puis qui ont connu une dissidence qui sont issus donc de scissions en interne. Hein, ce qui fait qu'en retour, les confédérations syndicales s'en sont toujours méfiées, hein, d'où un engagement assez distancié hein, vis-à-vis d'un mouvement qui d'abord naît en leur sein et d'un mouvement de contestation. Hein, c'est le cas pour les Suds, c'est le cas pour la Confédération paysanne en partie, hein, c'est un peu différent, hein, qui est présenté d'ailleurs longtemps comme un mouvement de gauchiste, hein, alors même qu'il y a donc cette volonté de lissage hein, de la CGT, etc. Et puis également, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que on a tellement, enfin, les commentaires, mais également les sociologues qui travaillent sur les mouvements sociaux ont eu quand même tendance à enterrer le mouvement syndical et à présenter le mouvement syndical comme une forme vraiment désuète, dépassée, voire ringarde, quoi. Hein. Et je pense que à la fois il y a crise, évidemment. Du syndicalisme hein, avec peu de militants, enfin peu d'adhérents chez nous, hein, et puis un ticket, un passager clandestin généralisé, hein, mais qu'à cette crise du syndicalisme s'est ajouté, d'une certaine manière, les syndicats, me semble-t-il, quand je parle des syndicats, c'est les confédérations, ont parfaitement, complètement intégré ça, hein, avec des effets d'ailleurs, hein, donc à la fois de modération, hein, et puis également, bon, il faut aller un peu dans le mouvement social parce qu'ils ouvrent un peu la voie, ça nous rend un peu plus visibles, etc. Hein, mais en même temps, les critères dans ces espaces qui sont des espaces assez informels, où soi-disant, il ne faut pas que ça vote, il faut que la décision soit prise en consensus, etc. Les critères ne sont pas les mêmes entre les syndicats qui présentent une force de nombre hein, et les autres une plus grande créativité. Hein. Donc sur ce, ça bouscule également la hiérarchie en quelque sorte entre les organisations et ça peut expliquer cet engagement avec des pincettes, on va dire. Quoi. Et qui, d'ailleurs, même dans les organisations, par exemple, certaines fédérations qui s'investissent à la CGT, à la CFDT ou à la CGT, hein, là aussi, c'est toujours des militants assez marginaux. Et qui utilisent finalement cet investissement en, dans des enjeux internes également.
Oui, à la question sur le patronat européen, donc sur l'absence de coordination. Bon là, c'était très spécifique sur la matière du salaire, hein, donc c'est l'absence de coordination sur les questions de salaire, évidemment. Sachant qu'en plus, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'elle n'est pas visible. Mais donc, le problème de l'europatronat, c'est qu'en effet, il se pose comme lobby. Donc, il se définit même comme ça. Il dit que même, dans la définition même de Business Europe, il estime que sa mission principale, c'est d'influencer le processus de décision au niveau communautaire. Donc, il ne se définit pas comme interlocuteur social en face de la CES, il se définit comme un lobby qui influence. Et ceci, ça se retrouve aussi au niveau des secteurs. Hein, il y a 60 fédérations patronales européennes de secteur contre 12 fédérations syndicales. Donc, on voit bien aussi que là, il y a un morcellement, un éclatement relativement volontaire, puisque autant les fédérations de branches européennes tentent de fusionner pour gagner en force, autant les europatronats de branches sont très, très, très éclatés, inconsistants, et leurs membres sont des associations qui ne sont pas des associations d'employeurs, mais des associations commerciales. Donc, ils n'ont même pas mandat pour négocier au niveau européen, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette architecture europatronale et n'est pas construite pour devenir un interlocuteur. Mais elle le sera si, évidemment, il y a pression suffisante. Ça, c'était comme ça au XIXe siècle dans chaque État. Le patronat ne s'est jamais créé en tant qu'interlocuteur par... donc... par miracle. Donc là, il y a vraiment, ce rôle des lobbies qui est absolument... par exemple, dans le dialogue social européen, qu'il soit interpro ou sectoriel, ce qui se passe, c'est que le patronat, cette fois-ci, joue avec la CES ou les acteurs sectoriels dans les dialogues sociaux sectoriels. Mais pourquoi faire ? Non pas du tout pour créer de la norme sociale européenne, mais pour avoir ce que j'appelle, moi, je vois les comités de dialogue social comme des deuxièmes chambres de lobbying. C'est-à-dire que non seulement ils font du lobby directement dans les DG, industrie, commerce, etc., concurrence, mais le dialogue social est utilisé comme un lieu où il est possible aussi d'influencer fortement les stratégies industrielles et commerciales. Donc c'est pour ça qu'en effet, si on ne voit l'eurosyndicalisme que par l'angle du dialogue social, et si on ne voit les possibilités de la CES que par là, eh bien c'est sûr qu'on dit l'Europe n'a aucun intérêt, autant travailler au niveau national. Mais il faut voir qu'il y a moyen aussi de monter des stratégies eurosyndicales qui soient autres quoi, que celles menées dans ce cadre-là. Donc ça sur le patronat. Maintenant sur votre question finalement cette modération. Pour moi la déstabilisation de l'union économique et monétaire par les marchés financiers, elle a précipité le renforcement de la coordination de cette coordination des politiques économiques. Mais ce qui est assez amusant, c'est que finalement depuis Maastricht, depuis la naissance de l'Union économique et monétaire, depuis le diktat monétaire de la BCE, etc., à gauche, on a toujours revendiqué, dans une certaine gauche, plus de coordination, justement, des politiques macro, un gouvernement économique. Hein, alors, Rocard ou d'autres en France parlaient de gouvernement économique européen. C'était vraiment une revendication qui signifiait en fait freiner cette concurrence salariale qui existe depuis l'UEM, freiner cette concurrence fiscale pour aller vers soit un salaire minimum européen, soit une convergence vers le haut de l'imposition du capital, enfin trouver des euro-revendications qui permettent une coordination vers le haut. Et on pourrait se dire que justement la crise aurait pu permettre ce type d'idées du gouvernement économique, c'est une fenêtre d'opportunité pour les amener, mais apparemment ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas permis de contrecarrer la force d'inertie des idéologies dominantes, puisque c'est le pacte pour l'euro qui a germé. Et donc c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire une coordination à la baisse, quoi. Donc c'est cette, et qui s'appelle en plus, et là c'est quand même un peu gonflé, gouvernance économique. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idée de gouvernement économique, cette idée a priori de gauche et plutôt d'harmonisation vers le haut, à l'idée d'une gouvernance économique qui se veut être donc qui passe bien du coup, qui est donc l'idée de maîtriser, non pas de coordonner à la hausse les salaires, mais de les maîtriser pour faire face à la concurrence mondiale et de maîtriser aussi les déficits et les dettes publiques. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut imaginer être une coordination des politiques économiques. Donc c'est bien la voie de droite qui domine en Europe, c'est pas nous. Donc c'était pour répondre à cette... Voilà, pour moi, ça ne se mord pas du tout la queue, c'est juste la force d'inertie de... Peut-être juste un dernier sur la question, le mouvement donc du lien entre mouvement et organisation, enfin de l'absence de lien, enfin plutôt entre, j'aurais deux petites anecdotes pour être brève. Je me souviens juste avant le départ de Gabalio, qui était secrétaire général de la CES en 2006, il est parti au dernier congrès en 2007. Eh bien, il y a eu un essai de rencontre avec Suzanne Georges. C'était les eurosyndicats rencontrent le mouvement enfin les têtes dirigeantes. Hein. Et donc, il y a eu cette espèce d'essai comme ça qui a complètement capoté, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument rien à se dire. Et c'était assez étonnant de voir justement cette absence de... Il y avait aussi des militants dans la salle et il y avait ce malaise, en fait, et cette méfiance réciproque qu'on sentait très perceptible entre syndicats et associations. Mais pour un peu plus d'espoir aussi, récemment, il y a des initiatives intéressantes en la matière, en particulier une Joint Social Conference qui a lieu à Bruxelles maintenant, l'idée étant justement de réunir les associations, le monde associatif. Donc c'est justement, c'était très difficile de définir déjà, si on appelait ça monde associatif, mouvement intermondialiste, ou, bon, bref, on a, finalement ça s'est appelé monde associatif, donc de l'ensemble des États de l'Union, et organisations syndicales, ensemble des organisations syndicales. L'idée étant que justement les deux mondes se côtoient en dehors des forums sociaux. Et donc ça, je trouve, puisque ça ne fonctionne pas dans les forums sociaux, que, enfin, ou mal, qu'il y a quand même des difficultés de lien entre que les syndicalistes dans les forums sociaux, etc. Il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est difficile, comme tu l'as expliqué. Donc là, c'est un peu, justement, essayer de relancer une initiative qui crée ce lien pour aller vers une urgence qui est la création d'euro-revendications ensemble. Voilà. Et l'idée étant de faire ça avant les sommets de printemps qui définissent les orientations économiques et sociales, donc pour justement définir d'autres priorités que celles qui seront définies par les institutions.
Oui, j'avais une question pour Isabelle Sommier. J'aurais bien voulu revenir sur la déconstruction que vous avez faite de la troisième assertion selon laquelle il y aurait l'expression d'une société civile internationale. En posant la question, est-ce que finalement c'est pas le propre de tout mouvement social, qu'il soit local, national ou transnational, d'autoproclamer ou de revendiquer une légitimité d'expression et d'action pour se poser en acteur politique, pour rassembler autour de lui, et que ces acteurs, ce mouvement, c'est porté par des militants, que ces militants soient, voilà, soient finalement historiquement tout le mouvement, tous les mouvements socialistes aussi, finalement, l'histoire du mouvement socialiste le montre aussi, que finalement c'est les militants, c'est les acteurs qui sont dotés le plus de capitaux sociaux et culturels qui parlent au nom d'eux et qui agissent. Est-ce que du coup ça... est-ce que ça remet en cause la légitimité politique de ces mouvements-là? Est-ce que ça n'a pas quand même une existence et une fonction et une action qui peut s'inscrire aussi dans la durée et qui peut avoir des effets?
Je réponds. Non, mais remettre en question l'autoprésentation de soi comme... L'expression d'une société civile internationale ne signifie absolument pas que je me prononce sur la légitimité politique du mouvement. D'abord parce que, dans un cas, je me place du point de vue du chercheur, en voyant, est-ce qu'il est légitime de parler de société civile internationale? Je pense que non, déjà, d'emblée, du point de vue des sciences sociales. Ensuite, mettons que l'on puisse en parler. Voyons la structure, voyons quel est le profil de ces militants. Est-ce que ça a une quelconque correspondance avec ce que serait, si on admet que... Là non plus, on ne peut pas le dire. Mais ça, je me place du point de vue du chercheur. La question de la légitimité politique de ce mouvement, de mon point de vue, n'est pas une question de chercheur. C'est une question d'ordre politique. Donc, c'est deux questions qui doivent être dissociées. Alors, en revanche, j'allais dire, c'est assez marrant, mais quand on a fait sortir le livre qui était issu Radiographie du mouvement altermondialiste à la dispute, qui était justement issu d'une grosse enquête collective qui était la première sur les militants, on va dire, altermondialistes donc à l'occasion du FSE, du Forum social européen, parce que les FSE, ça signifie surtout là où je, cet après-midi. Donc en 2003, quand on l'a fait sortir, c'était donc 2005, et il se trouve que c'était juste avant, mais c'était le hasard, un Forum social mondial à Porto Alegre, où à ce moment-là encore, beaucoup de têtes pensantes, de leaders de l'altermondialisme se rendaient. Hein. Et donc, un certain nombre avaient le livre en main hein, et sur ce, en discutaient. Hein, parce que, je le répète, et je pense que ça a des effets, il hein, y a quand même une très forte porosité hein, entre les deux milieux. Hein, et puis, comme en général, les chercheurs qui travaillent sur les mouvements sociaux, en général, sont plutôt sympathisants, a fortiori de ce mouvement, bon, et que les militants, les têtes penseuses, se pensent comme des intellectuels, ou sont des intellectuels, sur ce, ça fait comme ça, c'est pour ça que je parle souvent de circularité, hein, et ça, ce qu'on écrit exerce des effets, mais presque immédiats, quoi, hein, donc, et quelquefois, ça devient autoréférentiel, quoi, ça, c'est un peu gênant, quoi. D'un point de vue scientifique comme d'un point de vue politique, d'ailleurs. Enfin, bon, bref. Donc, c'est cette enquête statistique hein, qui montrait quand même la particularité, mais extraordinaire quand même, hein, de ces participants, hein, et qui est corroborée par d'autres enquêtes. Hein. C'était discuté, justement, parmi les leaders, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a deux lectures, possibles. Et donc, enfin, deux lectures, effectivement, socio-historiques, on va dire. Et puis, ça peut donner lieu à deux leçons politiques, stratégiques. Hein. La première, qui est la version optimiste, qui est celle de Christophe Ailliton. Il sera là demain, il en parlera sans doute. C'était de dire, comme tu le disais, c'est vrai. Bon, parce que lui, avec son background marxiste, etc., bah, de toute façon, effectivement, les mouvements sociaux ne naissent jamais des franges les plus misérables. Et l'exemple type, effectivement, c'est la naissance du mouvement ouvrier, certainement pas parmi le prolétariat, mais on le sait, l'aristocratie ouvrière, les ex-compagnons, enfin, etc. Parce que ça demande évidemment des ressources. Hein. Tout ça est juste. Hein. Alors donc, Christophe, optimiste, et puis, comme d'habitude, et puis offensif aussi, parce qu'il devait donner de l'espoir, enfin, il était dans son rôle en même temps, dit, bah, bon, c'est classique, hein, donc, on va, ça commence par l'élite, on va dire, et puis après, ça s'étend. Bon. C'est une lecture possible. L'autre lecture, c'est de dire, bah, en fait, c'est un mouvement donc, très particulier, et qui est assez fermé sur, sur ces catégories, hein. Moi, je ne me prononçais pas, parce qu'après, il y avait une dimension prospective, etc. Sauf ce que je remarque, c'est deux choses, c'est qu'entre cette enquête qui avait été réalisée en 2003 et aujourd'hui, eh ben, l'extension aux catégories populaires ou aux franges des minorités géographiques, etc., elle ne s'est pas produite. Donc, on est plutôt dans l'enfermement que dans l'expansion, en quelque sorte. Et puis, l'autre chose, c'est que déjà cette question s'était posée au moment du Forum social européen, donc en région parisienne, hein, parce qu'ils le savaient déjà, plus ou moins intuitivement, hein, que c'était un mouvement quand même beaucoup de fonctionnaires, classe moyenne supérieure, à fort capital culturel, etc. Donc déjà, l'extension géographique et aux classes sociales populaires, hein, aux classes populaires, était déjà à l'ordre du jour au moment de la préparation du FSE, qu'on avait suivi également. Et ça a donné quoi? Et là, c'est un vrai enjeu politique. Ça a été de dire, ben voilà, effectivement, il n'y a pas de catégorie populaire, on n'en a pas. Donc, il faut en trouver, donc il faut les faire venir pour qu'ils parlent au forum. Et ça a donné quoi? Une polémique pas possible et quasiment un éclatement du mouvement parce qu'on fait venir Tariq Ramadan en disant, moi, j'ai rien contre... Enfin, bon, il a le droit de parler comme les autres. Mais c'est le raisonnement qui était quand même assez spécieux, on va dire. C'était, on n'a pas de catégorie populaire, on va faire venir Tariq Ramadan avec la question du voile, de l'islam, etc., en associant les quartiers populaires, en ethnicisant les quartiers populaires. Et ça, ça pose une question, là, pour le coup, d'ordre politique, qui est tout à fait majeure. Quoi.
Merci. Donc ben moi, pour poursuivre sur la même lancée, par rapport au profil des altermondialistes, je m'interrogeais sur l'héritage social justement des altermondialistes, à savoir est-ce que c'est pas la génération des années 70 qui aurait connu l'ascenseur social grâce à des dispositifs qui étaient en place à cette époque et qui du coup auraient eu accès à la connaissance, à la formation supérieure, et en rapport avec leur héritage social et culturel, se seraient engagés dans des dynamiques comme celle-ci. C'est une interrogation.
Alors, là aussi, je réponds tout de suite ou...
Peut-être en prendre deux ou trois.
D'accord.
S'il y en a d'autres. Bertrand. D'accord.
Non, je trouvais que l'échange entre Hélène Stevens et Isabelle Sommier était intéressant et que ça demandait même à être poursuivi, parce que je pense que ça nous pose quelques questions fondamentales, y compris par rapport à ce qu'a été l'entreprise Raison d'agir à son origine, et attaque. Les deux entreprises ayant quelques similarités, mais ce n'est pas exactement les mêmes objectifs. À savoir que, au fond, ce que dit Hélène, si je simplifie, elle m'excusera, c'est tout mouvement social ou politique de contestation s'organise par rapport à une prophétie, par rapport à une capacité à dire le monde tel qu'il doit être et pas forcément tel qu'il est. Et de ce point de vue-là, la tâche des intellectuels, c'est peut-être aussi de se soumettre à cette assaise militante qui consiste à aller au-devant des gens tels qu'ils sont et apporter cette parole-là de confiance, d'optimisme et tout ce que fait Aguiton, mais ce que peuvent aussi faire parfois les intellectuels peut-être, ou qu'ils ne font peut-être pas assez. Et le paradoxe du coup, et ce que vous avez bien montré dans vos travaux et tes précisions de ce point de vue-là, ou celles que tu vas donner maintenant, sont tout à fait importantes, c'est-à-dire qu'Attac en tant qu'entreprise a été extrêmement importante. Moi, il me semble qu'Attac a permis de synthétiser des éléments programmatiques qui étaient à l'état diffus dans le mouvement syndical ou associatif. Et en même temps, comme à 16 militantes, le travail a été un peu circulaire. C'est-à-dire que Attac a très très bien réussi la mission d'éducation populaire qu'elle s'était donnée, de convaincre, de transmettre des connaissances, etc. Mais au fond, ce qu'aurait pu être aussi la mission historique, entre guillemets, pour employer des grands mots prophétiques, d'un mouvement militant, à savoir d'aller aussi au-devant des catégories plus populaires, de faire les liens avec les sections syndicales, avec, etc. Ce travail-là n'a pas été pris en charge par Attac de fait, qui a bien souvent consisté en des cercles de classe moyenne s'enseignant entre elles, mais ne souhaitant pas, par disposition, entrer dans ce que j'appelle la 16 militante du portage de tracts et de ce genre de choses qui restent encore nécessaires. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut avoir la modestie, comme travailleur intellectuel, pour employer encore des mots emphatiques, il faut avoir la modestie de dire que quand on fait un travail comme celui qu'on est en train de faire en ce moment, c'est toujours très utile, mais que ce n'est jamais suffisant pour changer l'ordre des choses.
Donc moi, j'attends que vous me donniez l'autorisation. Merci. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Mais ce n'est pas sans lien avec la question des générations. Donc, on va essayer de le faire, ce lien. C'est vrai, hein, sur l'absence de travail militant, hein, sauf, de travail militant, de petites mains, tractage, etc. Sauf pendant la campagne pour le non au référendum sur le TCE. Et ça a été tout à fait remarquable. Enfin, et Attac et Copernic avec les syndicats. Donc là, une grosse partie, quasiment tous les syndicats. En coopération avec les syndicats, il y a un vrai travail militant qui a imposé un débat qui était déjà étouffé dans l'œuf, hein, et les résultats quasiment déjà donnés d'ailleurs. Hein, donc ça a forcé le débat et ça a été extrêmement important et ça a donné d'ailleurs cette idée qui s'est avérée une illusion du dépassement des querelles de chapelle, etc., pour construire donc une candidature unitaire dans les deux ans. Bon, enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Cela étant, sur Attac, je pense que la crise interne
Autant, effectivement, Attac a eu un rôle tout à fait considérable, hein, en France et pas simplement en France. Mais la crise de démocratie interne, qui a éclaté en 2006, hein, a eu un rôle également considérable dans, d'abord, la déperdition militante, parce que tout de même, au fait de sa gloire, Attac était à 30 000 militants. Ils sont à moins de 10 000 hein, aujourd'hui, hein, donc ça, ils n'ont pas repris. Et puis en termes de démoralisation, hein, surtout pour un mouvement qui insistait beaucoup sur la démocratie, etc. Enfin bon, et ça a joué beaucoup. Bon, je dis un peu des choses un peu en vrac, hein, mais l'autre élément, c'est que, bon, tu dis qu'ils ont réussi vraiment leur objectif d'éducation populaire. Ça demanderait à être étudié, parce que que ce soit dans les forums sociaux ou à Attac, j'ai pas travaillé, moi j'ai pas fait d'enquête directement sur Attac, mais il y en a qui j'en connais. Il hein, y a un point commun entre les deux profils qui vont souvent ensemble, hein, les participants au FSM, enfin aux forums sociaux en général, et les militants d'Attac, c'est que une motivation première de leur militantisme, c'est se cultiver, apprendre des choses. C'est d'abord ça à Attac. Hein, bon. Et quand on va aux forums sociaux, également. Enfin, ça l'était en tout cas à l'époque. Ce qui rejoint, alors c'est peut-être un peu... Mais je pense que ça a à voir, que ce n'est pas simplement un artifice hein, pour lier les deux questions, à la question des générations. Parce qu'effectivement, il y a un problème de représentation des classes sociales, on va dire. Hein, puis il y a un problème quand même générationnel, non ? Dans ce type de militantisme. Car on a, je vous disais, c'est un mouvement plutôt jeune, hein, mais en fait, soit on a des jeunes, soit on a des retraités, en fait. Hein. On n'a pas le milieu, hein, on n'a pas les 30, 45 ans. Hein. Alors, là aussi, hein, on me dira, à juste titre, et c'est vrai que c'est classique, hein, ce qu'on appelle, c'est la disponibilité biographique de l'engagement, hein, du militantisme. Quand on travaille, on a moins de temps, alors qu'on sait très bien que quand on est à la retraite, on a plus de temps, éventuellement on a peur d'être seul, etc. Enfin, bon, on sait très bien que l'arrêt, alors momentané ou pas, ou la parenthèse, hein, du militantisme pour une femme, c'est clairement la maternité, le travail, la maternité, etc. Tout ça est vrai, hein. Sauf que ça a des effets dans la pratique militante, hein, et que ça pose problème d'ailleurs, hein, dans le sens où il y a clairement d'abord une division du travail militant, hein, entre les têtes pensantes qui sont des vieux entre guillemets, hein, mais qui charrient sur ce toutes leurs expériences, toute leur trajectoire politique, en particulier. Les querelles ancestrales entre telle ou telle fraction de la... Enfin, j'exagère, je caricature un peu, hein, tout l'héritage des problèmes du PSU, etc., qui sont souvent déversés dans des organisations, dans des espaces de discussion. Hein. Je pense d'ailleurs, là encore, hein, à cette tentative de construction d'une candidature unitaire. Hein, les jeunes militants, ils étaient dégoûtés. Parce qu'ils ont... D'abord, au début, ils n'ont pas trop compris. Hein, et ils voyaient... Enfin, après, ils ont compris que se rejouer des choses qui était la suite d'une période qu'ils ne sont pas connus, ils n'étaient pas nés, etc. Quoi, hein. Donc ça a des effets, hein, et puis des effets plutôt pas positifs, on va dire. Hein. Et puis ça a des effets sur les pratiques, comme je le disais, hein, avec les jeunes plutôt dévolus, évidemment l'animation des cortèges, etc. Hein, finalement, un mélange. Alors, il n'y a pas vraiment de mélange entre les catégories. Il n'y a pas trop de mélange non plus entre les... Non, je suis un peu... pas très positif aujourd'hui. Entre les générations. Et il n'y a pas tellement de mélange dans les discussions. Bon, là, je reviens d'une enquête à nouveau là, sur le FSM de Dakar. Hein. Bon, il était particulièrement désorganisé, donc il y avait déjà ça. Mais on a observé quelque chose qu'on avait déjà observé, c'est que finalement, chacun vit les forums en parallèle, c'est-à-dire vient avec son réseau syndical, réseau des OSI, réseau féministe, mettons, et ils ont tous leur parcours en quelque sorte déjà organisé. Alors ils vont d'une conférence à un autre, d'un atelier à un autre, mais il n'y a pas de brassage militant. Il n'y en a pas. Hein. Et il y en a de moins en moins, également du fait hein, que, visiblement, il y a une professionnalisation grandissante, en tout cas pour les militants occidentaux, hein, comme là, c'était à Dakar. On a beaucoup enquêté sur les militants africains, mais on n'a pas encore les résultats, je ne peux rien vous dire. Mais visiblement, on a de plus en plus des professionnels, des organisations qui participent. Je ne sais pas si... Bon, c'est un peu en vrac, mais...
On va peut-être en rester ici. Alors, ce que je vous propose, c'est de se retrouver à 21h ce soir au Dietrich pour la projection de Bamako. Et éventuellement aussi, en plus, demain matin, à partir de 9h30, dans cette même salle, a priori. Et n'oubliez pas la fameuse petite caisse participation aux frais qui complétera les subventions.